C'est absolument passionnant de découvrir ces savoir-faire, ces véritables passionnés. Et là, à présent, on va parler du château et de son association. Nous avons le grand plaisir de recevoir Pierrette. Pierrette, bonjour.
Bonjour Stéphane.
Et Jean-Claude. Jean-Claude, bonjour.
Bonjour, merci de votre accueil.
Avec grand plaisir. Alors tout à l'heure, Pascal nous a posé une excellente question. Mon cher Pascal, tu voulais connaître en quelques mots l'histoire du château.
Eh oui. Eh ben, on compte sur vous deux, du coup, pour nous la conter.
En quelques mots.
Alors, on va le faire rapidement, parce que c'est que l'histoire du château, il faudrait quelques heures.
Oui, je me doute.
Mais rapidement, on va dire que l'histoire du château commence avec l'arrivée des frères Ettore en Charente, puisqu'il n'était pas originaire de Charente. Il nous arrive de la petite ville de Liré, dans le Maine-et-Loire. Ça, c'est le destin des frères Ettore qui fait qu'ils vont venir en Charente suite à un drame dans leur famille. Et ensuite, ils vont avoir l'idée de construire un château, surtout M. Alphonse, qui va être architecte autodidacte. Il trouve le manoir un petit peu petit. Il va se dire, on va un petit peu l'agrandir. Et la feuille de papier, ils vont réaliser leur rêve, puisque dans la vie, si vous avez un rêve, il faut le réaliser. Ils nous ont laissé un formidable message. Réalisez vos rêves, même si vous n'allez pas au bout de votre rêve. Et ils ont fait ce grand bâtiment, ce grand château.
Et aujourd'hui, le château est géré par l'association ?
Non, le château il est géré par la mairie de Magnac-Lavalec parce que nous avons un bail emphytéotique avec le propriétaire qui est la foncière Volta, qui est à Paris, qui est une société d'affaires sur le logement sur Paris. Mmh. Voilà, donc on a un bail emphytéotique de 75 ans.
Et tous les deux, vous représentez l'association. Alors, on dit l'association des amis du château, l'association du château ?
Non, l'association des bénévoles du château de la Mercerie.
Des bénévoles du château de la Mercerie. Et puis, vous connaissez évidemment les recoins et les petits secrets de cette belle bâtisse, je suppose, tous les deux ?
Oui, hein, je pense.
Oui, il y a des coins, des recoins, mais on découvre toujours des choses. Hein. C'est de l'architecture, ça. Voilà, des fois, on passe à côté de petits détails. Puis, avec le nombre d'années, le temps qui passe, on est toujours admiratif devant ce monument, en fait.
Quels sont les objectifs de l'association des bénévoles ?
C'est de faire surtout beaucoup de manifestations, hein, le maximum.
De
il faut
vivre
rentrer
le château.
De l'argent, il faut faire vivre le château, il faut continuer à le restaurer. Donc voilà, donc on fait plusieurs manifestations à l'année.
Ça commence à Pâques, je crois.
Ça commence le lundi de Pâques avec la chasse aux œufs. Donc il y a à peu près 300 enfants qui sont là à courir dans le parc à chercher des œufs pour récupérer leur petite poche de chocolat. Voilà, de là après nous avons le 13 juillet au soir une paella géante avec balle au château.
Génial.
Voilà, qui ressemble, on a à peu près, enfin dans énormément de monde hein, qui viennent de plus en plus. Après, nous avons le premier dimanche d'août une brocante ici, dans le parc du château. 220 brocateurs cette année. Voilà, et à peu près 10 000 visiteurs.
Et ça fait du bon.
Voilà, nous avons fait d'ailleurs, personnellement au château, 600 visites.
Voilà. Ah oui.
Ensuite, nous avons les journées du patrimoine, bien sûr, hein, qui sont ouvertes à la mi-septembre. Et ensuite, notre dernière manifestation, c'est le salon d'art ce week-end. Voilà. Entre deux, quand même, on a eu aussi un concert de piano qui s'est fait ici à l'Orangerie, un concert de piano de Pierre-Yves Blas. Voilà.
Très bien, donc ça fait un programme assez varié et qui s'échelonne comme ça d'avril, enfin ou de mars avril à ce début du mois de novembre, enfin mi-novembre même.
Tout à fait.
Vous êtes guide également tous les deux ?
Nous sommes guides tous les deux.
Tout à fait. Moi,
Jean-Claude étant le chef des guides.
Oh, le chef, enfin.
T'es notre chef.
Une belle équipe. Hein.
Ah, disons quelqu'un qui coordonne, naturellement.
Oui, disons que je suis là depuis quelques années, donc j'ai appris beaucoup. Puis maintenant, je transmets ce savoir de guide. Et tous nos guides sont d'abord des bénévoles, mais des bénévoles passionnés et passionnants. Souvent, moi, je le vois, je m'occupe beaucoup de l'accueil également. Et lorsque les gens arrivent, ils sont surpris parce qu'ils ne savent pas à quoi s'attendre. Parce qu'en fait, ils pensent à une façade. Ils ne s'attendent pas à avoir un château visitable complètement. Voilà. Et au final, quand ces gens-là repartent, il y a beaucoup d'émotions. Parce que souvent, ils nous disent, vous avez une aventure incroyable, vous faites un travail incroyable. Le lieu est incroyable, l'histoire des frères Ettore est incroyable. Et en fait, ces gens sont très, très touchés. Et je le dis souvent, d'ailleurs, on ne repart jamais indifférent de ce lieu. sûr. Parce que eux, ils nous ont écrit une histoire, ils nous ont laissé un patrimoine extraordinaire. Et ce que font découvrir les bénévoles, nos guides, hein, ces gens-là, eh bien, ils font rêver les gens, ils leur font découvrir de belles choses. Et ils moi, je le vois bien à l'accueil, quand ils repartent, ils sont très touchés. Et souvent, ils reviennent en famille, ils reviennent même 3-4 fois dans l'année. Et puis, ils viennent avec des amis, de la famille. Et tous les ans, ces gens-là, on les revoit régulièrement.
Combien de bénévoles constitue l'association ?
À peu près 140 bénévoles.
Oui, ça fait un beau noyau dur.
Voilà, et sachez que pour ce week-end, il y a 40 bénévoles qui sont mobilisés tout par jour pour assurer toute la logistique du salon, à savoir le parking, déjà, dans un premier temps, la restauration, le service, voilà, et toute la surveillance du château. Donc, il y a à peu près 40 bénévoles de mobilisés.
Les visites s'effectuent ici pendant la période estivale ?
Voilà, d'avril donc à début novembre. Voilà.
Il y a des jours évidemment et des heures déterminées.
Bien sûr, il y a des jours. Alors donc les mardis, jeudi et dimanche, donc dans les après-midi, hein, à partir de 14h30. La billetterie fermant à 17h et le site, lui, à 18h. Et l'été, les juillet et août, c'est toute la semaine, sauf le samedi après-midi.
Donc là, ça veut dire que pendant toute cette période, il faut mobiliser des guides tous les jours.
Exactement.
Eh oui. Et ils donnent beaucoup, justement.
Ben oui, c'est ça.
C'est important d'en parler parce que c'est des gens, donc on dit bien bénévoles.
Oui.
Ils ont le plus cher des salaires, hein, de bénévoles. Mais voilà, ils font tellement par passion qu'on est là souvent, même s'il y a beaucoup de route à faire. On a des bénévoles qui ont une heure de route, hein, ils viennent de Saint-Amand de Boix ou de Ruffec. Eh bien, ils font une heure de route pour venir et pour repartir une heure de route, mais ils sont là, voilà. Parce que, voilà, on le dit souvent, il y a ce côté passion et partager avec les gens, justement, cette passion de ce lieu.
Combien dure une visite, en moyenne ?
Une heure et demie.
Elle pourrait être plus longue.
Si on est bavard, des fois, ça peut durer 2 heures.
Et on visite les intérieurs uniquement ? Il y a également une partie extérieure que l'on peut explorer ?
On visite 14 pièces dans le château. Ouais. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a les extérieurs, la roseraie, les tombes du château, on passe devant. Voilà, ça peut faire tout un après-midi
sans problème.
La roseraie avec 750 rosiers.
Ah oui. Tu vois, Pascal, on n'a pas parlé des douves.
Oui, non,
c'est une blague.
Il n'y a pas des douves, mais j'ai vu les tombes.
Oui. Mais vous avez vu les tombes ?
J'ai pas vu les tombes, j'ai vu une pancarte où il y avait marqué tombes.
Oui, voilà, elles sont.
Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ?
Eh bien, ce sont les tombes des deux frères Rétoré qui sont enterrés chacun dans un pilier, ici, puisqu'il fit finalement en 1970, ces deux frères voyaient partir les châteaux au Japon. Donc ils étaient démantelés et je me souviens très bien que dans le bureau, Monsieur Raymond, le député, m'a dit « Tu verras toujours le château puisque nous allons nous faire enterrer ». Ils avaient prévu leur tombe à ce moment-là. Donc elles ont été construites pour qu'ils soient enterrés dedans.
Et
ils sont enterrés chacun dedans. Un pilier.
Tout à l'heure, vous avez parlé de réunir forcément de l'argent pour financer l'entretien et la restauration. Alors, je sais que, je crois savoir que cette salle ici a été restaurée il y a 2 ans.
Voilà, c'est ça.
Oui. Il y a d'autres travaux en cours actuellement ?
Oui, bien sûr. Il y a la résidence d'artistes qui est en cours, hein, ici, juste après, d'ailleurs. Hein. C'est le chantier d'insertion, donc, principalement, qui la réalise. Hein.
Donc, là, combien de personnes œuvrent au cœur de ce chantier d'insertion ?
Une dizaine de personnes.
Avec, voilà, évidemment, plusieurs corps de métiers représentés ?
Oui, voilà. Et puis, ce sont des gens, le chantier d'insertion, Jean-Claude aussi peut en parler, mais ce sont des gens qui sont là 2 ans et qui sont là pour repartir dans la vie, parce que souvent, ils ont eu des problèmes dans la vie personnelle ou professionnelle. Oui. Et donc, ils sont là 2 ans. En suivant également des formations, des stages, on les emmène même à des job dating, hein, pour qu'ils puissent repartir dans la vie professionnelle. Et donc, pendant ces 2 ans, eh bien, ils vont travailler au cœur du château en fonction de leur projet et puis de ce qu'ils ont envie de faire et ce qu'ils peuvent faire aussi.
Et quel type de restaurations sont réalisées, Jean-Claude, dans ce cadre-là ?
Alors justement, j'allais le dire, c'est qu'ici, le chantier d'insertion, c'est une école. On apprend énormément. En fait, Didier a eu l'idée de faire ce que faisaient déjà les frères Ettore à l'époque. Ils avaient des salariés, ils avaient des stagiaires, ils avaient des apprentis. Eh bien, aujourd'hui, sur l'entretien du parc du château, donc c'est tout ce qui est espace vert.
Combien d'hectares le parc ?
Alors, le parc, on est sur 7 hectares et on a à peu près 5 km de haies.
Ah oui.
Et puis, on a l'exploitation forestière également, puisque nous avons un chauffage au copeaux de bois. Donc, ils abattent les arbres. On a un broyeur à copeaux. Donc, on est un circuit très court. Et donc, ils réalisent les copeaux de bois pour l'hiver, pour le chauffage. Et puis, ensuite, ils travaillent également sur la commune. Et ils vont aussi parfois faire des chantiers chez des particuliers. Ouais. Donc, c'est très diversifié. Et c'est pour ça qu'en fait, Pierrette le sait aussi comme moi, c'est que ces gens-là, justement, au bout de 2 ans, lorsqu'ils vont repartir, ils vont sortir en ce qu'on appelle sortie positive. Ouais. Donc, ils vont repartir vers un emploi. Voilà. Il faut signaler aussi qu'on leur fait passer le permis de conduire s'ils ne l'ont pas.
S'ils l'ont pas.
Vous voyez, c'est important aussi. Donc, comme on le disait, des stages et donc des formations. Et tout ça fait quoi là, ces gens-là vont vraiment retrouver une ville normale et repartir de bon pied. Et puis, comme on le dit souvent, la mercerie, l'usine, je dis souvent, l'usine n'est pas désagréable, il y a pire dans la vie qu'un château.
Un cadre absolument incroyable, évidemment, pour pouvoir opérer. Pascal, Tiffaine, vous avez peut-être des questions ?
Moi, j'en ai une, du coup, si je peux rebondir là, sur la réinsertion. C'est une association qui vous envoie les gens en réinsertion ? C'est vous ? Comment ça fonctionne en fait ?
Alors, tout simplement, déjà, le chantier d'insertion est une association, déjà. Ah, elle s'appelle IPLT 16, Insertion par le Travail, donc 16. On est financé bien sûr par le conseil départemental et bien sûr les gens arrivent et surtout on est en relation avec plusieurs systèmes, hein, type genre, par exemple France Travail, hein, là, qui nous envoie dès qu'on a des demandes. Là.
Donc France Travail, ils vous envoient des profils,
mais bien sûr.
Vous en discutez, vous regardez voilà.
Il y a des entretiens d'embauche.
Et c'est vous du coup, ça, techniquement, Pierrette et Jean, c'est vous qui le faites ça, non ?
Ah oui, avec Didier Joby, la directrice du personnel
qui est là, qui fait de l'accompagnement socio-professionnel et on décide bien sûr de prendre ou pas prendre quoi, mais on fait les entretiens d'embauche.
Bon, ça c'est incroyable. Du coup, ça, je connais pas votre parcours professionnel, peut-être à la retraite, je sais pas.
Oui, nous sommes à la retraite.
Et du coup, vous êtes hyper dynamique. Enfin, vous êtes toujours occupé quoi.
Ça occupe la retraite.
Ah bah là oui.
Moi déjà j'avais vécu le fait d'être premier salarié du château, l'insertion. Et en fait, parce que c'est Didier Joby et Alain Gomez qui sont les créateurs de ce projet. Au début, c'était un petit peu compliqué. Puis en 2016, ils ont pu donc lancer ce chantier. Et moi, j'arrivais en fin de parcours. Et ils ont dit, on va embaucher Jean-Claude parce que j'avais des compétences. Et au final, voilà, ça s'est passé comme ça. Et comme je connaissais bien ce vécu, c'est cette belle aventure, je me suis dit, comme Alain allait laisser la place, il était très occupé ailleurs. Didier me téléphone un jour, il me dit, écoute, voilà, Jean-Claude, Alain va laisser la place, est-ce que ça t'intéresserait d'être président du chantier ? Alors j'écoute, je réfléchis, je te rappelle, et en fait, 5 minutes après, je l'ai rappelé.
Vous n'avez pas réfléchi longtemps.
C'est oui. Mm-hmm. Voilà, et c'était en plus une très belle expérience. Voilà, on apprend beaucoup. Alors c'est beaucoup de travail, un chantier d'insertion. Mm-hmm. C'est énormément de travail, mais en fait, c'est énormément passionnant, et ça enrichit énormément. Mm-hmm. Et puis je pense que donner aux autres de la chance, leur donner de pouvoir réaliser, d'évoluer dans la vie, c'est très important aussi pour eux. Donc il faut le faire et c'est important de donner de soi.
Voilà. Merci beaucoup de votre dynamisme. Le temps passe très très vite.
Merci,
on aurait beaucoup
vous,
à dire. Merci pour l'accueil et puis bravo pour l'engagement des bénévoles. On convie évidemment le plus grand nombre à venir ici vous rejoindre tout au long du week-end, de vivre cette édition 2024 du Salon des artisans d'art et des créateurs au cœur de ce château de la Mercerie. Merci Jean-Claude, merci Pierrette.
Merci à vous, merci aux éditeurs.
Merci à vous.
Tiffaine, Pascal, on a vécu une matinée absolument passionnante. On serait bien resté 2-3 heures de plus si le timing l'avait le permis ce week-end. Merci à toutes et à tous. Merci pour l'accueil. Et puis rendez-vous bientôt. À midi. Oui, Pascal.
Non, mais j'allais te dire à bientôt, Stéphane.
À bientôt.
Et puis dans ce cadre très sympa.